devez savoir.
On en jase. 100% parler. Tout l'été.
Certains qu'on en jase et, du soir au matin ou du matin au soir. Le matin, c'est avec Nathan Meilleur, Alex Laramée et moi-même. Ensuite, Mathias Turcotte et moi, on se partage la plage horaire de 11h à 14h. Et ensuite, c'est l'équipe du retour qui prend la place avec Maxime Larouche, toujours Mathias Turcotte et Antonine Iaccarini. Ça, c'est pour cette semaine. C'est le menu de la semaine. Dès la semaine prochaine, on a des retours, hein, des gens de la programmation officielle de l'automne. Jeff Fortin qui va être là le matin avec Alex Laramée et moi-même. Ensuite, Mathias et moi, on se charge du point de Max, qui va être le point P, le point Turcotte, comme vous voulez, de 10h à midi. Ensuite, Jeff Fortin reprend les commandes du midi avec toi, Mathias. Donc, ça sera à ne pas manquer. Puis le retour va être intégral. Ça veut dire Denis Gravel sera bien de retour, Véro Bergeron et Audrey Pinchot. On vous gâte aussi à Boulevard 101. C'est pas parce que c'est l'été qu'on n'a pas des cadeaux pour vous. Puis il y a eu de la grande visite hier. On a un lutteur qui est venu jaser sur les ondes de Boulevard 101. La NSPW, ça prend pas de vacances, ça non plus. Et le vendredi 21 août à 20h, on vous invite à une soirée de lutte professionnelle et ça promet d'être assez explosif. Là. On a le gala La Rage dans la cage. Ça me fait quand même rire, ça me rappelle des paroles d'une certaine chanson. Au stade Canac. Donc, le gala La Rage dans la cage avec Alex Silva et Pee-wee qui vont enfin régler leur compte dans un combat de cage. Une cage, deux combattants. Puis une seule personne qui s'en sort. C'est un peu ça. Si vous voulez vos 4 billets pour le 21 août, je vous laisse faire une immersion dans ma tête. Vous pensez que La Rage dans la cage me rappelle quelle chanson? Et si vous la trouvez, cette chanson-là du répertoire québécois, je vous donne les 4 les 4 billets pour la NSPW. Là, décevez-moi pas, parce que je viens de voir les yeux de mon collègue Mathias qui est comme un chevreuil sur l'autoroute. Soit il trouve l'immersion dans ma tête trop complexe, ou soit ça fait partie de sa fameuse faiblesse qui est tout ce qui est québécois, culture chanson québécoise, québécoise, ouais. Culture québécoise. C'est ouais. Sûr que toi, t'aurais pas le concours.
Ah non, non, non. Mon Dieu, non. Non, pour de vrai...
Ça commence à rentrer.
Ah ouais, il y en a qui l'ont.
En plus, on donne des indices pour la culture québécoise. Là, ça fait partie de ça. 418-971-1021, faites un effort supplémentaire. Là. Vous devez être un peu plus précis. Celui qui a écrit et dont le numéro finit par 4800, c'est une bonne réponse. Donc, j'attends d'autres bonnes réponses pour ensuite vous mettre dans le gros baril, la grosse cage, shaker ça, puis faire une personne gagnante pour 4 billets de la NSPW en nous prochain. Ça s'en vient, c'est dans quelques jours. C'est le 21 août qu'on vous envoie à la lutte. Entre-temps, on va chicaner nous aussi, mais pas avec notre intervenant, mais on va parler de chicane. Et ça, c'est un autre indice. Il est au bout du Zoom, toujours contente de le recevoir. C'est Luc La Liberté, chroniqueur en politique américaine. Également, il est producteur des capsules La Liberté en clair. Bonjour, Luc.
Oui, bonjour à vous deux.
Est-ce que tu aurais trouvé ma référence? Toi, t'aurais-tu pu participer au concours?
Non, La Rage dans la cage, pour moi, ça faisait tout simplement référence à la section commentaires des réseaux sociaux. Donc, je n'avais pas associé à une chanson en particulier.
Ouais, non. D'après moi, Luc, tu ne gagnes pas les 4 billets pour la NSPW. Mais regarde, je vais prendre toutes tes connaissances et puis on va les utiliser pour parler des missiles en Pologne. Donc, c'est une nouvelle aujourd'hui qu'on a comme quoi il y aurait problématique en Pologne face à la guerre Russie-Ukraine. On pense que c'est un missile qui aurait été dévié de sa route, donc ce serait une erreur. Est-ce que c'est ce que tu as sur ton radar aussi politique?
Ben, c'est-à-dire qu'on s'en remet toujours aux déclarations officielles sans avoir toujours la possibilité de vérifier la justesse de ces versions officielles. Mais ce qu'il faut faire remarquer, ce qu'il est important de noter, c'est que ce n'est pas la première fois que ça se produit. Donc, que ce soit du côté ukrainien avec certains drones, mais aussi du côté russe, ce genre, appelons ça comme ça, donc d'erreur ou de problématique, se reproduit. Et avec la Pologne, on voit sur la carte la proximité, bien sûr, entre la Pologne et l'Ukraine, mais avec la Pologne, on est en territoire de l'OTAN, d'un pays de l'OTAN. Et ça fait plusieurs fois que la Russie frappe au-delà des frontières et qu'on tombe en sol d'un pays donc qui appartient à l'OTAN. On peut y voir aussi une forme de stratégie. Mais quand j'évoque ça, je répète, ce sont des choses qu'on allègue, ce sont des choses qu'on a déjà vues auparavant, mais on n'a pas de source fiable à 100% disant « c'est un défi » où on vient titiller l'OTAN, où on fait une démonstration de force, peu importe le sens qu'on lui donne, Pour l'instant, le narratif officiel demeure celui de l'erreur.
Varsovie accuse Moscou, là, littéralement, après cette chute-là du missile en Pologne. Il n'y a pas de blessés, heureusement, pendant ces frappes massives-là qui ont été menées sur l'Ukraine, donc la nuit dernière. Est-ce que Varsovie pourrait se tanner à un moment puis dire « Hey là, les erreurs, nous, on les prend plus comme telles, on les prend comme une réelle attaque puis on va décider de se manifester nous aussi dans ce conflit-là? »
Écoute, toujours là aussi difficile d'y aller d'une réponse claire et nette, hein, mais on peut... D'abord, cette réponse-là ou cette réplique-là, elle était attendue et elle devait être faite. On ne pouvait pas laisser passer une frappe comme celle-là sans aucune réaction. Maintenant, le ton, ce que ça montre, c'est qu'éventuellement, on va peut-être ramener ce dossier-là devant l'OTAN. Mais devant l'OTAN, on le sait, on en parle beaucoup depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Donald Trump n'est pas le plus fervent partisan d'un appui à l'Ukraine, pas d'un appui américain direct à l'Ukraine. Et au sein même de l'OTAN, il a plus contribué à la division qu'à un rassemblement ou à une unité des forces. On lui accorde du mérite, bien sûr, pour avoir forcé la main des Européens surtout, mais en disant, et du Canada, augmentez vos contributions à l'OTAN, ça ne peut pas être aussi important du côté américain. Et je pense que ça se défend et même que c'était nécessaire. Maintenant, est-ce qu'on a la cohésion nécessaire du côté de l'OTAN pour vouloir intervenir avec une certaine tiédeur ou une froideur américaine? Il y a d'autres pays impliqués aussi là, qui pourraient hésiter, mais on se tourne d'abord vers celui qui est le plus lourd ou le plus puissant, le plus pesant autour de la table, les États-Unis.
Donc, je rappelle aux auditeurs que c'est un lieu d'impact qui a été situé à environ 80 km de la frontière ukrainienne pour ces missiles-là. On a découvert dans un champ à environ 2 km d'habitation un véritable cratère. On dit que c'est 10 mètres de diamètre et de profond aussi de 5 mètres. Il y a des débris de cet objet non identifié qui ont été dispersés sur un rayon de 200 mètres. Le fait qu'il n'y en ait pas de blessés, c'est le miracle dans tout ça, mais ça fait réagir à l'international. Luc, la liberté, j'aimerais maintenant commenter avec toi, et ce sera le sujet dont j'ai envie de passer plus de temps en ce moment, c'est celui sur la prise de parole de Anthony Fauci. La COVID-19 qui est de retour à coup de grand 2x4 en arrière de notre tête, à l'avant-scène, je dirais, au Sénat américain, donc le chef d'orchestre de cette réponse médicale américaine à la pandémie, c'est Fauci, et lui a refusé de répondre aux accusations de dissimulation des républicains. Pourquoi? Ben, on accuse un peu tout le monde de créer un genre de spectre nébuleux autour des origines de la pandémie. Et là, ça fait de la chicane encore une fois aux États-Unis.
Écoute, première chose tout d'abord, clin d'œil puis sourire amical à nos amis à l'écoute. Et ils sont fort probablement nombreux. Tu l'as référé à la COVID avec ce retour comme un 2x4. Je pense que ça a marqué les esprits, la COVID. Ça nous a tous et toutes affectés à des degrés variables, bien sûr, selon qu'on ait eu des revenus ou un certain confort ou qu'on ait été littéralement coupé pendant cette période-là. Mais on le sent là, depuis quelques jours, depuis qu'on ramène Anthony Fauci à l'avant-plan. Donc, ça fait jaser. Il y a des gens qui sont encore en colère. Il y a des gens pour qui c'est un dossier qui est très émotif. Et avouons-le, des gens qui ont des questions qui sont encore sans réponse. Et là, je reviens où je me concentre sur le témoignage de Fauci ou l'absence de témoignage de Fauci hier. C'est qu'il y a deux choses là-dedans dont il faut parler ensemble, mais aussi séparément. Il y a un jeu politique partisan particulièrement intense. Si on est un républicain, qu'on veut s'éloigner des dossiers Epstein, si on veut s'éloigner de l'Iran, si on veut s'éloigner des sondages, de l'inflation, s'en prendre à une figure aussi polarisante en raison de la COVID, qu'Anthony Fauci, on peut faire beaucoup de kilométrage là-dessus. Et hier, il y avait un aspect spectacle, un aspect théâtral, un aspect mise en scène, puis on avait mis la table deux jours avant en dévoilant des notes personnelles d'Anthony Fauci. Et Anthony Fauci a dit « Écoutez, ça me semble être littéralement piégé, dirigé contre moi. J'ai tellement répondu souvent à des questions. » Aujourd'hui, je flaire le piège, je ne vais pas répondre. Et il a invoqué le cinquième amendement, celui qui dit finalement qu'on n'a pas à témoigner si on s'incrimine soi-même, on n'a pas à faire ça. Et bien sûr, les républicains sont revenus à la charge en disant soit ben, c'est une confirmation que vous êtes responsable ou encore que vous avez menti et on va vous poursuivre pour ça aussi. Mais donc, tout ça fait partie du jeu politique. Et à remarquer hier, les démocrates ont été très, très discrets. Et pourtant, il y a matière à question. Et là, je vais vers le contenu des notes de Fauci, puis le volet scientifique. Il n'y a pas, à ma connaissance, aucun complot auquel ait contribué Anthony Fauci, ni une façon pour lui de s'enrichir ou d'obtenir des avantages en lien avec la COVID ou la recherche sur certains virus. Mais Anthony Fauci s'est contredit et il n'a pas dévoilé l'ensemble des informations qu'il connaissait. Et c'est là, moi, hier, où, sans fonder de grands espoirs là-dessus, j'attendais d'avoir des réponses. Un exemple, et ce sera peut-être plus clair pour ceux qui nous écoutent et qui sont informés un peu sur le dossier, il y a de nombreuses hypothèses qui ont circulé sur l'origine de la COVID. On a dit « c'est passé de l'animal à l'humain ». Ça s'est passé exactement au marché humide à Wuhan, ou encore c'est une fuite de laboratoire, une brèche de sécurité. La plupart du temps, on dit que ça s'est transmis. Je pense que c'est encore l'explication qui retient l'avis d'une majorité. C'est passé de l'humain, donc de la bête, pardon, à l'humain, mais pas initié au marché de Wuhan. Ça a été comme un propagateur, ça, un agent propagateur, mais c'est pas là que ce serait parti. Mais il y a encore ces discussions sur le laboratoire de Wuhan, et c'est là où Anthony Fauci n'a pas dit toute la vérité. C'est que dans les questions qu'on a posées à Fauci, ou dans les versions qu'il a données, il a déjà dit « le service que je dirigeais n'a jamais financé ce laboratoire », parce qu'on disait qu'il y avait du financement américain pour ce laboratoire qui effectue de la recherche sur les virus, et qui, entre autres, procédait à ce qu'on appelle du gain, donc dans le développement des virus. Donc, ce qu'on dit essentiellement, c'est qu'au laboratoire à Wuhan, on inventait littéralement, on créait des virus, ou encore on en prenait certains et on les rendait, on accélérait le développement d'un virus pour le rendre encore plus dangereux. Les gens vont dire, pourquoi faire ça? Pour une foule de raisons. Ça peut être pour une guerre bactériologique, ça peut être pour mieux lutter contre un virus, c'est pour prévoir ou voir venir les coups. Mais donc, c'est quelque chose qui est courant dans les laboratoires du type du laboratoire de Wuhan.
Pas juste une affaire de science-fiction dont on veut infecter tout le monde.
Non. Donc, ce qu'on appelle le gain de fonction, de ce que je viens de décrire. Donc, l'erreur de Fauci, ou le mensonge, ou la confusion... On ira peut-être un jour au fond de la question, c'est d'avoir dit « je n'ai pas financé ça, je n'étais pas au courant ». Et en fait, c'est presque impossible, considérant son statut et sa position, qu'il ne sache pas que le service qu'il dirigeait a accordé une subvention à un organisme qui lui a versé la somme, donc, au laboratoire de Wuhan. Est-ce que la fuite vient de là? On n'est toujours pas capable de le dire. Ce que Fauci a fait, c'est de nier ou de contourner une question sur... les investissements auxquels il aurait été lié. Et c'est ça, hier, qui a fait énormément de kilométrage et qui a fait jaser. Et si, à la base, nous sommes une personne qui doute du gouvernement, qui doute des autorités, et des autorités politiques, scientifiques, des autorités en éducation, si on a l'impression qu'on manque de transparence, hier, on est, à la fin de la journée, ressorti de là, au moins aussi en colère, aussi insatisfait, ou encore plus en colère, ou plus insatisfait. Donc, il faut démêler le théâtre politique, la mise en scène des républicains, des questions que certains républicains ont posées et qui me semblent bien légitimes. Par exemple, je veux savoir au plan scientifique d'où ça vient, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que malheureusement, des épidémies, il y en aura d'autres. Et ce qu'on dissimule là pourrait nous aider à nous préparer ou à tout le moins devrait être discuté, considérant les retombées, les morts, l'impact économique qu'a eu cette fameuse pandémie.
Absolument. Puis avant de te laisser partir, Luc, c'est vrai que ça ressemblait à une chanson de Carmine Campagne dans bien des cas. Ça partit de la chauve-souris qui aurait déféqué sur le pangolin. Là, le pangolin aurait donné ça à l'humain. Finalement, on est revenu en disant la chauve-souris, oui, c'est un réservoir naturel là, où on a trouvé à 96% de coronavirus là-dedans, mais il faut quelque chose qui le fasse muter, qui s'adapte aux cellules humaines. La chauve-souris ne peut pas le faire. On a exclu le pangolin de la situation aussi à un moment. On s'est tourné vers les chiens vivrains. Ça ressemble à un raton laveur poilu sur quatre pattes qui se déplace assez rapidement. Puis là, on disait qu'effectivement, pour les chiens vivrains, ça, il y en a qui ont été vendus à Yuan qui serait à l'origine de la pandémie de COVID-19, mais on n'avait jamais corroboré toute la théorie. Fait qu'on est encore un peu dans le nébuleux. Puis on veut des explications, même si on est simple citoyen qui s'en va au Costco comme n'importe qui fait son épicerie un peu partout, qui veut vivre sa vie. Le fait de connaître les origines de la pandémie, je pense que tout le monde le mérite. Puis ça pourrait aussi arrêter d'envenimer des courants qui sont perturbateurs. Luc, on va surveiller ça, mais il va falloir effectivement quelqu'un mettre la main sur l'origine à un moment ou à un autre parce que, tu l'as très bien dit, on n'est pas à notre dernière pandémie puis on veut une meilleure gestion. Pour ça, ça part des bases.
Parfait.
Merci, Luc La Liberté, chroniqueur en politique américaine, producteur des capsules La Liberté en clair. J'ai hâte de te reparler déjà.
Moi également. Une bonne fin de journée à tout le monde, aux auditeurs, auditrices.
Le midi, on en jase à Boulevard 102.1.
Mais j'avoue que mettre des gants blancs pour ce genre d'exercice, c'est une idée qui ne me viendrait pas.
Jusqu'à 14h, on en jase. 100% parler tout l'été.
Mathias Turcotte, tu as été assez discrète dans les nouvelles parce qu'on va faire un bon bulletin dans les prochaines minutes. Il y a beaucoup de nouvelles aujourd'hui importantes, encore dans le fait divers, beaucoup de judiciaires. Entre autres, on a mis la main sur Philippe Benoit, si vous n'étiez pas aux affûts de l'actualité dans les dernières heures. Le père qui était recherché pour le meurtre de son propre fils, donc de son fils, on a réussi à mettre la main dessus. Le BEI nous informait, par exemple, qu'on était en enquête.
Oui, ce qu'on nous informait, c'est que le père aurait été atteint par balle lors de l'intervention des policières. On sait qu'on avait déjà utilisé la force du côté des policiers pour maîtriser l'homme. L'homme avait été transporté à l'hôpital. Une enquête du Bureau des enquêtes indépendantes a donc été lancée pour mettre un peu en lumière tout ce qui s'est passé de ce côté-là. Vous signalez aussi au cours des dernières minutes Martin Carrier qui va demander justement une évaluation de sa responsabilité criminelle dans l'affaire qui avait fait beaucoup jaser il y a de ça quelques semaines. Cet homme-là est accusé actuellement d'avoir tué Sushmita Bhaskaran, son ex-femme. On avait retrouvé le corps de Sushmita du côté de Lévis après une enquête du service de police de la ville de Québec en juin. Sur le long du fleuve Saint-Laurent. Donc, on apprend aujourd'hui que ce qu'on va plaider du côté de la défense, eh bien, c'est que l'homme avait certains troubles de santé mentale au moment de commettre le geste.
Oui, il va être rencontré par un psychiatre de l'Institut universitaire en santé mentale de Québec. Ça va se faire au courant des prochaines semaines. On va procéder à l'évaluation, puis il va revenir aussi devant le tribunal le 31 août prochain. En circulation, est-ce que ça se passe mieux que ça se passait?
20 ouest entre Taniata et Président Kennedy, encore très difficile, même aujourd'hui. En 4, direction sud, un peu d'attente à hauteur de Charest. Même chose dans l'ancienne direction sud, à hauteur de Capitale. Il y a quoi que ce soit d'autre, 418-971-1021 par texto.
Félicitations à Alexandre, qui était parmi les nombreuses personnes qui nous a répondu calvaire de la chicane. Donc, Boom Desjardins, c'était aussi accepté pour l'incursion dans ma tête quant au combat de lutte qui va avoir lieu dans le mois de août, donc 21 août prochain, directement la rage dans la cage au stade Canac. C'est ça le gala, puis je vous demandais à quelle chanson ça me faisait penser. Selon la tête que vous me connaissez, là, hein, il y en a qui savent un peu à qui ils ont affaire à travers les années ici à Boulevard 101. Vous avez été bon, meilleur que mon collègue Mathias.
Oh, oui, effectivement.
Ça, c'est le cas de le dire. Et on retourne à nos moutons, on retourne en santé parce qu'il y a quelque chose d'important qui s'est passé dans les dernières heures. Et c'est quand même une bonne poursuite pour en parler de Santé Québec qui est poursuivi pour avoir copié le logiciel de gestion de la firme Petal. Il y a Steve Waterhouse, expert en cybersécurité, qui est avec nous ce midi. Bonjour, Steve.
Bonjour, Pascal.
Merci d'accepter notre invitation à Mathias et moi. D'abord, on a été surpris, nous, que Santé Québec, qui est une organisation tout récemment créée, en qui on met énormément de confiance et qu'on tente de suivre les activités pour l'implantation de plein de choses en technologie au niveau de la santé, mais aussi pour restructurer bien des pans du ministère de la Santé. Ça peut décevoir ce matin de voir ça à la une. T'en penses quoi, toi?
Ben, c'est pas juste ce projet-là, là, veut dire, là, qui doit être remis sous le spotlight, parce que là, il y a quand même une mise en demeure, on va l'appeler comme ça, là, que Petal fait envers le gouvernement. Mais c'est symptomatique aussi de tout un paquet de projets à travers les 20 dernières années au Québec, là, qu'il y a toujours eu quelque chose de pas correct, d'éthiquement questionnable, on va le dire comme ça, pour qu'après ça, on apprend juste à la fin que les factures ont été gonflées à l'infini quasiment. Puis ça, c'est plusieurs projets, comme je te disais. Mais dans ce cas ici, là, on parle vraiment d'un... les allégations sont d'un vol de propriété intellectuelle qui aurait été utilisé dans un appel d'offres pour d'autres personnes, d'autres compagnies, d'autres consortiums qui viendraient aider à compléter et faire la plateforme que Pétale s'est fait demander de faire, c'est-à-dire l'orchestrateur pour être en mesure de gérer de l'information dans le domaine de la santé.
Sur une échelle de 1 à 10, pour le commun des mortels qui t'entendent en ce moment, c'est Waterhouse, à quel point c'est grave ce qui est allégué là, de Pétale?
Ben, moi, je le mettrais à un 9. Parce que, Pascal, quand tu dis que tu es une compagnie, tu as gagné, c'est un gré à gré qui a été fait initialement entre Pétale et le gouvernement du Québec. Et donc, voici, là, tout le monde se met les cartes sur table. Moi, c'est ça ce que j'entends et ce que j'ai lu aussi. Et de l'autre côté, ben, le gouvernement, il n'était pas d'accord sur certains aspects, ça a l'air. Et là, encore là, on a juste la version de Pétale qui vient de sortir. J'ai hâte d'entendre la version gouvernementale et comment est-ce que les autres l'ont fait. Parce que c'est grave de dire, j'ai pris de l'information qui était encore là, sous une entente de confidentialité dans deux parties. Puis là, ils s'en vont prendre l'information particulière et l'amènent dans un contexte d'appel d'offres secondaire. Puis là, tu as un tiers parti qui en profite. Ouais, c'est bien. Là que ben, c'est pas correct. Là. N'importe, que ce soit au gouvernement ou dans l'entreprise privée, de faire ça, c'est vraiment, encore là, un élément éthique vraiment pas acceptable.
Oui, puis pour vrai, c'est un élément éthique qui n'est pas acceptable, mais il est évident, cet élément éthique-là, qu'on ne peut pas faire ça dans la vie. Je comprends pas pourquoi Santé Québec aurait fait ça. C'est là où j'essaie de pas décrocher, puis en même temps, je comprends à quel point on doit en parler. Là.
Ben moi, je crois... que de l'intérieur, ben, il était peut-être pris par le temps. Il n'y avait peut-être pas nécessairement tous les éléments voulus pour compléter avec ce qui était engagé. Et là, ça s'en allait vers peut-être une dépense. Là, c'est vraiment spéculatif que j'apporte là. Et il y avait beaucoup de dépenses qui s'en venaient. Fait qu'ils ont dit, parfait, on va créer, c'est encore là, c'est une hypothèse, créer un autre appel d'offres, puis on va le faire à moindre coût. Puis, on va donner à un autre organisme, dans ce cas-ci, je crois, c'est CGI qui est avisé, et pour, après ça, repartir, tu sais, un peu mettre les compteurs à zéro. Moi, c'est de même que je vois le stratagème, ça s'est vu dans le passé, et c'est pour ça que il y a un élément véreux derrière, on va le dire. J'aime pas, Pascal, voir ça, vraiment, il y a d'autres choses à faire, là, que de... Tu sais, si la compagnie Pétale livrait ce qui était demandé, et ça, c'est symptomatique aussi de la façon de gérer les contrats informatiques, là, le gouvernement du Québec, il émet un appel d'offres, le concours est gagné évidemment par une compagnie X. Puis là, en cours d'exécution, bien, il y a des ajouts, il y a des modifications. Et c'est ça, ces extras-là, qui fait gonfler la facture tout le temps. Maintenant, est-ce que j'entendais plutôt le commentaire, y avait-tu un logiciel sur une tablette en quelque part qui aurait pu être acheté tel que et l'intégrer? La réponse est non. Parce que le terme orchestrateur, eh bien, c'était pour faire le lien entre plusieurs systèmes d'information au ministère de la Santé, avant même que Santé Québec arrive. Et la formule et la façon de faire que Pétale avait mis de l'avant, bien, c'est les infrastructures en arrière, le framework, comme on dit en anglais, et qui était unique à la façon de faire. Et c'est ça qui a été un peu dévoilé comme mécanisme particulier et que c'était vraiment pas honnête de faire ça comme ça.
Si on se fie à ta théorie Santé Québec, ce changement-là qu'on voulait orchestrer, c'est vraiment pour une raison de coût. Si on suit la théorie encore, parce que visiblement, c'était pas une raison de performance, parce que on voulait utiliser un logiciel qui était similaire à ce qu'on utilisait avec Pétale.
Oui, ben tiens, c'est ça l'affaire. Puis... j'ai hâte de voir, en tout cas, s'il y a une réponse officielle qui va sortir de tout ça. Évidemment, là, ça s'en va en cours. Peut-être ça va y avoir un scellé, on ne sait pas. Mais il reste toujours bien qu'on a une version de ce qui est allégué. Puis oui, c'était un gros montant, c'est normal. Pétale dit, garde, si on l'aurait continué, eux autres, ils ont sûrement fait l'estimer, ça nous aurait rapporté X nombre de dollars, plus perte de réputation, là, fait qu'ils ont rajouté des montants comme ça. Les gens, ils ont calculé ça certainement de bonne manière, mais il reste toujours bien. Si jamais un juge donne raison à Pétale, ben, t'as raison, Pascal. Là, ça rajoute ça par-dessus la facture, puis on n'a toujours pas le logiciel.
Oui, parce que je le disais d'entrée de jeu, là, la somme qui est demandée, quand même 150 millions de dollars de dommages et intérêts, ce serait plus le fait d'avoir développé le dit logiciel du côté du gouvernement, donc toutes les sommes qui vont en soi dans la matérialisation de ce projet-là, en plus de toutes les sommes qui s'en suivront, parce que c'est sûr qu'on va encore débourser pour ça. Peut-être des compagnies qui ont pesé sur le crayon, parce que ce ne serait pas la première fois qu'on voit ça, une compagnie faire affaire avec le gouvernement puis dire « Ah, vous m'avez choisi, parfait, vous pouvez payer, vous devez payer, et vous ne connaissez pas trop comment ça fonctionne parfois et les coûts que ça a vraiment, les vrais coûts de tout ça, fait que nous, on a pesé un petit peu plus sur le crayon. » Ça, c'est mon opinion parce que je l'ai vu dans d'autres dossiers.
Mais, je le partage.
Oui, exact. Bon, mais ça, je sais bien que tu le partages, mais je ne voulais pas le dire pour toi. Mais si Pétale s'en va sur la place publique avec ses allégations, situation-là. Moi, la crainte que j'ai, c'est que probablement, il y a quelque chose à gagner là. Parce que d'amener une instance politique, donc une instance gouvernementale, devrais-je dire, sur la place publique, comme ça, c'est qu'on a quand même les reins solides, là.
Ben, ils ont, disons, en main une cause, ils ont fait des vérifications d'usage, ils n'ont pas lancé ça juste sur le coin de table, puis ils ont dit « Hey, on fait tout ça en fin de semaine », tu sais. Non, non, il y a des vérifications certainement qui ont été faites. J'ose espérer qu'il y a eu des discussions en arrière-plan avec lesquelles ils ont pu faire une tentative de négociation, ça je ne sais pas par exemple,
j'espère
mais
aussi,
définitivement.
Ouais. Puis la crédibilité de Santé Québec là-dedans, est-ce qu'elle se perd ou c'est vraiment juste un enjeu de parcours?
Ben, je crois que oui, c'est un enjeu de parcours, Pascal, mais il y a un élément de crédibilité, en effet, que on peut-tu en avoir un résultat final de qu'est-ce que Santé Québec est en train de réaliser? Parce qu'il est en train de réaliser des grandes choses. Je veux dire, le dossier de santé numérique, là, c'est pas rien. Ça date de longtemps que ça a été lancé, puis là, c'est dans, on va dire, dans la phase finale. Fait que dans cette phase finale-là, on s'attend que ça va faire qu'est-ce que c'est promis de dire. Et là, après ça, on a un autre système d'information qui n'est pas toujours livré puis qu'on a besoin. Alors, c'est pour ça qu'il va falloir que Santé Québec démontre qu'ils sont capables d'amener une finalité à tout ça et non pas une extension de qu'est-ce que le ministère de la Santé faisait dans le passé, là.
Merci beaucoup, Steve Waterhouse. Avant de te laisser partir, peut-être en une minute, puis tu vas peut-être m'en vouloir, je veux juste voir avec toi cette nouvelle-là, parce qu'une minute, c'est court, mais la Canadienne d'origine chinoise qui a été accusée d'espionnage là, à oui. l'OTAN, qui a été identifiée aujourd'hui, on en parlait cette semaine de cette nouvelle-là, mais elle aurait travaillé pour des organisations canadiennes avant de s'installer en Belgique, puis là, elle effectue un stage à l'OTAN, c'est pas rien, puis finalement, on se rend compte qu'il s'agit de Biweng Zhang, une ingénieure systémique qui a une formation en économie, le CV oui. est en ligne. Elle a auparavant travaillé pour l'Agence spatiale canadienne, Statistique Canada. Fait que là, on épluche, mais finalement, elle était au sein du gouvernement ou dans des instances hyper importantes avec des informations hyper confidentielles pendant des années. On dirait un film de science-fiction. Toi, tu vas me dire que c'est pas la première fois, c'est pas la dernière fois, puis que la Chine s'implante depuis des années, mais qu'on n'a rien fait depuis des années.
Mais parce que je peux te dire une affaire, par exemple, c'est le système pour effectuer les vérifications de sécurité d'une cote de sécurité lorsque les gens travaillent avec l'information confidentielle, secrète, est brisé. Parce que ça donne une démonstration qu'elle a passé à travers les mailles du filet. Quelqu'un qui lui a donné cette autorisation-là, après avoir fait les vérifications, est-ce qu'ils ont été faits comme du monde? Moi, il faut qu'on questionne le système qui donne ces codes de sécurité-là. Parce que arrivé à l'OTAN, désolé, il est supposé en avoir un autre filtrage. Fait que si le Canada, à sa base, l'a parrainé, disant « Oui, on a tout fait les vérifications, tout est correct », puis elle se ramasse là, puis après ça, elle est accusée d'espionnage, tabarouette, il y a quelque chose qui ne va pas bien. Cependant, le système, s'il marche bien, quelqu'un peut virer de bord une fois qu'il est accrédité, pas de trouble. Mais aussi, il faut regarder tout le monde, il faut garder un œil sur, évidemment, son voisin, parce que la menace de l'interne demeure aussi quelque chose de réel et qui, par contre, n'importe qui peut être assujetti à ça. Fait que, oui, Pascal, je suis d'accord avec toi, là, c'est peu importe la personne qui est là, faudra peut-être que le gouvernement démontre qu'ils ont la situation en main, parce qu'à date, là, ça dérape, c'est un méchant temps.
Merci beaucoup, Steve Waterhouse, expert en cybersécurité. Il y a une puce dans mon oreille qui me dit qu'on aura bien l'occasion de se reparler sur des sujets comme ça. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Certainement. Bon après-midi.
Bon après-midi.
Jusqu'à 14 heures, on en jase. 100% parler tout l'été. Boulevard 102.1.